Vous écoutez France Culture. Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray. Le génie de l'hédonisme, 8e année. La fabulation freudienne, Sigmund Freud. Aujourd'hui, les questions des auditeurs du CDN de Normandie à Michel Onfray.
Bonjour. Après tout ce qu'on a entendu sur Freud, je pose une question. De nos jours, que reste-t-il des théories de Freud chez les psychanalystes, à part le divan et la main au portefeuille?
Ça, j'aurais du mal à vous répondre de manière générale sur cette question-là, parce que je pense qu'il y a des gens sincères et des gens insincères. Il y a des thérapies diverses et multiples. C'est un petit peu comme le christianisme aujourd'hui. On peut critiquer le christianisme, mais vous aurez toujours un chrétien qui vous expliquera qu'il n'est pas chrétien comme il faudrait l'être, et qu'il est un chrétien dissident, qu'il est chrétien mais il ne croit pas forcément aux enfers, il est chrétien mais il ne croit pas à l'Eucharistie, il est chrétien, etc. Donc vous avez aujourd'hui des marxistes qui ne croient plus à la lutte des classes, des chrétiens qui ne croient pas au paradis, donc vous avez aussi des psychanalystes qui ne croient pas à Freud. Et c'est assez problématique parce que chacun peut se réclamer de diverses méthodes. Vous pouvez être adlérien, jungien, lacanien, vous pouvez être reichien, vous pouvez mélanger un certain nombre de thérapies. Et c'est difficile de faire une réponse simple en disant voilà ce qui reste aujourd'hui. Donc si on veut vraiment considérer qu'il y a une diversité considérable et qu'il faut essayer de réunir avec un minimum commun, il y a effectivement cette idée que toutes les psychanalyses considèrent que vous avez quelqu'un qui sait et quelqu'un qui ne sait pas, que dans une logique de dialogue, vous pouvez faire surgir à la conscience quelque chose qui procéderait d'un traumatisme de votre inconscient, et que ce qui surgirait à la conscience via la logique de l'analyse ferait disparaître, comme par enchantement, le symptôme, et que donc vous seriez guéri. À charge de quoi vous payez le psychanalyste et l'affaire est réglée. Donc en gros, si on veut une espèce de plus petit dénominateur commun, c'est ça. La cure psychanalytique, c'est un échange de paroles tarifé avec quelqu'un qui a été psychanalysé et qui vous fait savoir qu'il a les moyens, non pas tant lui de parvenir à votre propre inconscient, mais de faire de telle sorte que vous-même, vous puissiez lire dans votre inconscient ce qui s'y trouve et pose problème. Alors, on aura l'occasion de voir comment l'inconscient est une notion quasi théologique. C'est-à-dire que chez Freud, dès qu'on s'approche vers lui, il disparaît, il recule, il est introuvable, il est insaisissable, on ne peut pas dire ce qu'il est. On ne peut pas dire ce qu'on trouve en lui. Il y a un certain nombre d'informations qu'on peut donner, mais l'inconscient freudien ressemble à l'espèce de dieu de la théologie négative. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion déjà de dire ce qu'était la théologie négative. La théologie négative vous dit que de Dieu, on ne peut rien dire, même pas qu'on ne peut rien en dire. On ne dit rien. Dieu est. Et même déjà dire Dieu est, c'est déjà encore trop. Si vous regardez le schéma de la théologie négative, qui est un peu aussi un schéma juif. On pourrait imaginer que le dieu juif est un peu dans cette logique-là et que il y a des psychanalystes aujourd'hui qui considèrent effectivement que la psychanalyse est une espèce de judaïsme postmoderne. Donc vous avez cet inconscient qui est partout, qui est nulle part, qui pilote tout, qui nous fait être ce que nous sommes et auquel on a du mal à accéder. Alors de temps en temps, vous pouvez percer un peu l'inconscient, y parvenir par du rêve, par un acte manqué, par un lapsus, ou par un oubli, par tout ce que Freud appelle la psychopathologie de la vie quotidienne. Mais pour le coup, on ne parvient pas à savoir ce qu'il est. Il est psychique, nous dit Freud, donc insaisissable, donc immatériel. Donc c'est pratique. C'est immatériel, c'est invisible, c'est insaisissable. La raison ne peut pas fonctionner sur lui, mais la raison peut fonctionner éventuellement autour, à côté, en face. Vous pouvez avoir des espèces de saisies en biais, des saisies de côté, mais vous n'aurez jamais la connaissance de la vérité de l'inconscient. Donc vous avez dans cet inconscient-là la possibilité de mettre ce que vous voudrez. Et si mon hypothèse est juste, ce que je crois, sinon je ne vous l'enseignerai pas, et que la psychanalyse est pour un psychanalyste l'art d'investir ses propres affects, voire l'art de régler ses propres problèmes sur le dos de ceux qui ont des problèmes, alors à l'évidence, vous verrez qu'il n'y a pas d'objectivité d'interprétation. Vous avez un rêve. Parce que ça, ce serait facile, si on veut être vraiment dans la logique de l'épistémologie, de la science, de la construction d'une vérité par l'expérimentation. Vous diriez, on va réunir 15 psychanalystes. Je vais raconter mon rêve. Les 15 psychanalystes vont proposer 15 interprétations. théoriquement, les 15 interprétations devraient se superposer. S'il y a une vérité objective de la psychanalyse, ce que vous aurez rêvé là, eh bien, ça signifiera ceci, ça signifiera cela. Qu'est-ce qu'on découvre ? Si vous avez 10 psychanalystes, vous avez 10 interprétations. 15 psychanalystes, 15 interprétations. Parce que vous avez 10 projections, 15 projections. Donc, effectivement, il n'y a pas d'objectivité, il n'y a pas de scientificité, il n'y a pas de possibilité expérimentale de parvenir à des certitudes sur ce terrain-là. Il y a simplement une logique projective de celui qui va vous soigner en prétendant qu'il va vous guérir et qui, parfois, peut vous guérir. Bien sûr, parce que parfois, il suffit de s'allonger, de parler, de raconter, d'être entendu, d'être écouté. On est dans un monde où personne n'écoute personne. Si vous avez quelqu'un que vous payez pour vous écouter, comme certains payent d'autres femmes pour aller... Hein, c'est le bordel, si vous voulez. Mais vous avez des gens qui, privés de véritable sexualité ou d'érotisme, paient des gens pour ça. Eh bien là, vous allez payer des gens pour qu'on vous écoute. On ne vous écoute jamais. Il y a votre femme qui ne vous écoute jamais, il y a votre mari qui ne vous écoute jamais, il y a vos enfants qui ne vous écoutent pas, il y a vos collègues qui ne vous écoutent pas, il y a le flic qui vient de vous arrêter qui ne vous écoute pas, il y a le percepteur qui ne vous écoute pas, il y a le type qui vous vend les légumes et ne vous écoute pas non plus. Vous en avez marre. Et vous avez là quelqu'un qui vous dit « moi, je vous écoute ». Allez-y. Et on est là 50 minutes pour ça. C'est déjà une thérapie. C'est ce que les curés appelaient la confession auriculaire, confession à l'oreille. Vous racontez vos trucs, et puis on vous écoute, et puis on vous fait... Il y a une parole performative, effectivement, vous faites le geste, et voilà, je tape sous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, trois pater, deux ave, vous rentrez, l'affaire est réglée. Ça guérit, ça soigne, ça me paraît normal. Donc ça soigne quand, effectivement, vous avez quelqu'un qui vous fait ça, mais avec l'équivalent de la blouse blanche, des œuvres complètes de Freud sur sa cheminée, ou de Reich, ou de Lacan, ou de Jung, ou de qui vous voudrez. Mais vous avez ce que Lacan appelait le sujet supposé savoir, qui vous fait savoir qu'il est peut-être supposé savoir, mais sachant qu'il dit qu'il est supposé savoir, c'est qu'il sait vraiment. C'est la fameuse inscience de Socrate. Je sais que je ne sais rien, mais ça, je le sais. Donc, vous prenez de l'argent et vous avez quelqu'un qui vous dit « Ah oui, mais lui, il sait, psychanalyste. Donc, il m'a conduit à des vérités, à des certitudes qui m'ont rendu mon équilibre, etc. » Oui, à l'évidence. Il y a l'effet placebo, l'effet de la guérison par le verbe, de la thérapie. J'ai dit qu'Antiphon, sur l'Agora d'Athènes, procédait déjà de cette manière-là et qu'à l'évidence... Il y a un bénéfice de la parole, il y a une guérison par la parole, il y a la possibilité d'alléger le fardeau des gens par la parole, par la discussion, par l'échange, par une véritable écoute. Donc ça, c'est indéniable. Maintenant que vous enrobiez tout ça d'un discours de scientificité, c'est là qu'il faut dire le roi est nu. Non, il faut dire ça soigne parce qu'il y a des effets placebo, et vive l'effet placebo, et que l'idée que vous pourriez être soigné par quelqu'un qui vous dit « moi j'ai les moyens de vous soigner », ça peut suffire pour soigner. Maintenant... Pourquoi à chaque fois que vous avez un freudien, c'est toujours un problème d'Édipe, c'est toujours un problème de père, c'est toujours un problème... Voilà. Pourquoi est-ce que quand vous avez affaire à un reichien, c'est toujours une histoire d'orgone, c'est toujours le fait que, finalement, vous devriez coucher avec un peu plus de femmes et que ça vous arrangerait probablement la vie si... Donc la plupart du temps, quand on va voir un analyste, on va voir ce qu'on a envie d'entendre. Vous le savez bien, l'orgone, on aura l'occasion de parler de Reich, l'orgone qui est une substance... qui est en nous, qui est contenue par une espèce de carapace. Cette carapace, elle est construite par le capitalisme, elle est construite par la société. Brisez la carapace, exprimez votre orgone, et puis quand vous aurez exprimé l'orgone, alors vous éviterez toutes les biopathies. Il écrit un livre qui s'appelle « Biopathie du cancer ». Reich, où il nous explique que si on a des pathologies, si on a des souffrances, si on a des douleurs, mais même des souffrances anatomiques, eh bien tout ça a à voir avec une mauvaise gestion de l'orgone. Il écrit un livre qui s'appelle « La fonction de l'orgasme », très, très intéressant, où il explique une courbe très particulière. Enfin, vous avez abscisse et ordonnée, et on vous dit, voilà, sur la durée, sur l'intensité, il dit, voilà, la sexualité chez un homme, c'est ça. Voilà la durée, c'est souvent court, et voilà l'intensité, c'est pas forcément... Et puis voilà, pour les femmes, c'est beaucoup plus souvent long, et puis voilà. Faites se superposer ces deux courbes-là, et vous verrez, ils ne se rencontrent jamais, les hommes et les femmes. Donc, si on a une éducation au corps de l'autre, si on a une éducation à l'érotique, si on explique comment fonctionne un corps de femme à un homme en lui disant qu'il ne faut pas projeter sa propre sexualité sur la sexualité des femmes, en disant qu'effectivement, il y a une logique un peu plus diesel, si on veut aller vite, et que si on veut effectivement maîtriser le temps, voilà, il faut s'y prendre comme ça. Alors effectivement, là, vous avez des théories. Moi, j'ai eu ça, j'avais 15 ans, la fonction de l'orgasme, ça a été extraordinaire. Vraiment, je trouvais ça extraordinaire, cette idée de dire « attendez-vous les uns les autres, et puis construisez votre érotique ». Et puis ça se fait à deux, ces histoires. Donc voilà, vous pouvez aussi avoir un... Alors vous allez voir Freud, il vous dira « papa, maman », etc. Vous allez voir un Reichien, il vous dira « mais vous vivez où ? C'est quoi votre revenu ? C'est quoi votre métier ? C'est quoi votre pouvoir d'achat ? Est-ce que vous avez une chambre pour vous ? Où est la chambre des enfants ? Est-ce que les enfants sont susceptibles de vous entendre ? Est-ce que, etc. » C'est-à-dire des conditions historiques dans lesquelles l'inconscient se trouve effectivement impliqué. Et un Reichien vous dira, ou un freudo-marxiste vous dira, mais attendez, si vous aviez une chambre rien que pour vous, si vous aviez des enfants dans un coin, etc., si vous n'aviez pas la peur de... Voilà, si vous, la contraception, à l'époque où Reich travaille dans les années 20, effectivement, la contraception, elle est problématique, difficile et pas courante. Si vous avez une sexualité dans laquelle un moyen contraceptif est sûr, eh bien évidemment, il y a plein de névroses qui disparaissent. Donc, il y a autant de psychanalyse que de psychanalystes, même si quelques-uns se retrouvent sous des rubriques en disant plutôt freudien, plutôt reichien, plutôt jungien, plutôt lacanien, plutôt adlérien, plutôt, etc. Donc si vous êtes un peu informé en disant « bon, j'ai envie d'une analyse », la plupart du temps, vous savez qui vous allez voir, un peu. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous adresser à n'importe qui. Vous savez très bien que vous avez envie d'entendre quelque chose et que quelqu'un vous le dira plus qu'un autre. Et effectivement, les Reichiens sont plus dans des logiques de libération d'orgone, dans des éducations sexuelles, dans des éducations sensuelles qu'on ne trouvera jamais chez Freud. Si vous êtes dans une logique lacanienne, c'est autre chose. C'est bon pour les sadomaso, Lacan. C'est extraordinaire. Vous prenez des baffes, des gifles, payez très cher, ça ne dure pas longtemps. Vous êtes dans des jeux de mots abracadabrantesques, comme dirait l'autre. Et puis, vous vous dites, ça doit être très profond, j'y comprends rien, mais ça doit être... Et paf, un jeu de mots, 500 francs dans les années 70, 3 minutes, vous dites, bon, c'est un maître. C'est un maître, moi, il m'a changé la vie. Mais ouais, mais lisez des psychanalyses de gens qui ont fait des psychanalyses avec Lacan, je vous assure qu'ils se sont parfois endettés une vie entière pour 3 ou 4 jeux de mots qui ont changé leur vie. Bon, après tout, si les jeux de mots d'un psychanalyste peuvent vous changer la vie, pourquoi pas? Moi, je pense qu'il y a d'autres solutions. Mais bon, donc, où elle en est, la psychanalyse? Ben, on est dans cette... pour reprendre votre question, on est dans ce capharnaüm généralisé. Parce que moi, chaque fois que j'ai des discussions avec Myriam Mellouz, par exemple, à qui j'ai demandé d'assurer un séminaire de psychanalyse ici à l'Université populaire de Caen, parce que je ne souhaitais pas qu'on entende que ma parole. Et quand j'ai des discussions avec Myriam, elle me dit, mais je suis d'accord avec toi, mais je suis d'accord avec toi, mais je dis, mais comment on fait alors? Comment tu fais pour être psychanalyste si tu... Oui, mais non, parce que, bon, j'ai eu des discussions avec Jacques-Alain Miller là-dessus, qui me dit, mais vous avez raison, ça c'est vrai, mais qu'est-ce qui reste? Et parfois, j'ai des discussions avec des curés comme ça, qui me disent aussi que, bah ouais, l'enfer, le purgatoire, tout ça, même Dieu, il ne croit pas forcément trop, que... Alors on dit, bah oui, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Qu'est-ce que tu fais encore là? Pourquoi ça... Il y a un problème, là, quand même. Donc vous avez une théorie, vous avez une doctrine, et c'est sécurisant. C'est sécurisant. Vous avez un maître penseur, et vous avez toutes les réponses dans l'œuvre complète. Donc pas besoin de vous casser la tête pour penser par vous-même. Vous pouvez vous reposer sur quelqu'un. Quand Sartre invente une psychanalyse existentielle, il fait un truc extraordinaire, parce qu'il dit, il y a un matériau chez Freud, mais il n'est pas question, chez lui, qui était formé à la philo classique, agrégé de philo, lecteur de Husserl, du cogito de la psychanalyse, lecteur de Descartes, préfacier d'un discours de la méthode quand il était jeune, Sartre. Il ne peut pas, quand on a écrit La transcendance de l'ego, on ne peut pas faire l'économie de la conscience classique. Comment vous pouvez faire si vous avez envie de la psychanalyse, mais que vous avez envie de conserver un certain type de conscience classique et pas sacrifier à un inconscient dans lequel il y aurait des hordes primitives, des parents qui s'accouplent, des bonnes qui se mettent derrière dans des assiettes de bière, ou des gens moustachus qui peuvent... etc. quoi. Vous dites, mais est-ce qu'on est obligé de composer avec ça? Ben non, pas forcément. Pas obligé de croire que si vous avez de l'eczéma, c'est parce que vous avez... Hein, bon, vous connaissez l'histoire maintenant. Donc on peut imaginer que des psychanalystes, et moi c'est là que j'aimerais les solliciter en leur disant, mais allez voir du côté de la philosophie. Quand Lacan s'occupe de la philosophie de cette époque-là, 70, des années 70, un peu avant, un peu après, bien sûr, mais ils font quelque chose qui est extrêmement intéressant parce qu'ils inscrivent la psychanalyse, parfois c'est à leur corps défendant, mais ils inscrivent la psychanalyse dans une histoire, dans leur histoire. Freud dit toujours, l'histoire, ça n'existe pas. On a l'histoire du complexe d'Édipe, de la haute primitive, etc. C'est pas prouvé par l'histoire, mais c'est prouvé par la phylogénèse. C'est dans mon inconscient, l'affaire est réglée. Si vous dites, mais non, personne n'échappe à l'histoire, même si notre époque, qui est une époque de folie, veut faire l'économie de l'histoire tout le temps. L'économie de l'histoire, on fait l'économie du passé, on fait l'économie de la mémoire. Non, il faut revivre les historiens, refaisons l'histoire, repensons la question de la mémoire et réinscrivons les productions psychanalytiques dans leur contexte historique. Et le contexte historique, parce que personne n'échappe à un contexte historique. Picasso ne peut pas voir le jour pendant la Renaissance, ça paraît évident. Schoenberg ne peut pas composer ce qu'il compose en étant un contemporain de Mozart, ça n'a pas de sens. Donc si on inscrit la pensée d'un psychanalyste dans son temps, alors on découvrira, par exemple en ce qui concerne Freud, que le temps, il est positiviste. On est dans la logique du positivisme, on croit que la science est la vérité. Marx croit que son hypothèse politique, elle est scientifique. Il parle d'un matérialisme scientifique. Il parle de matérialisme dialectique. Marx, il n'a pas vraiment l'impression qu'il est dans l'hypothèse pure. Non, il est dans la vérité de l'histoire qu'il analyse en disant, voilà, on est dans la science, les autres sont dans l'utopie. Proudhon, Leroux, tout ça, ce sont des gens qui sont dans l'utopie, socialisme utopique, moi, socialisme scientifique. Prenez le positivisme d'Auguste Comte, ça n'est que ça, la positivité, la science a fait des progrès considérables avec la révolution industrielle, ou à moins que ce soit l'inverse, mais je veux dire, on constate qu'il y a des progrès scientifiques au début du 19e siècle, et on a l'impression que la science peut tout. Donc vous avez de la science-fiction, vous avez Jules Verne, vous avez des gens qui pensent le monde en disant « mais avec la science, on va faire des choses extraordinaires ». Donc, Freud est prisonnier de l'obsession positiviste de son temps. C'est tout, il faut le savoir, comme moi je suis probablement prisonnier de ce dont on découvrira un peu plus tard, que ça constituait l'espèce, ce que Foucault appelle l'épistémé, le terreau, si vous voulez, le terreau d'une époque. Lacan, il est prisonnier d'un contexte qui est celui du structuralisme. On considère que la grande vérité, elle est dans la linguistique. On découvre les cours de Benveniste, on découvre les logiques signifiant-signifié, etc. Et d'un seul coup, vous avez un Lévi-Strauss qui dit du bien de Lacan, puis qui, en cachette, disait qu'il ne comprenait rien. Il dit « J'ai assisté à des conférences de Lacan, j'y comprenais rien. » Mais ceux qui l'écoutaient semblaient avoir compris. Claude Lévi-Strauss. Vous voyez un peu comment fonctionnent les logiques d'intimidation. C'est-à-dire que quelqu'un du format de Claude Lévi-Strauss, dont on dit qu'il était une caution importante pour Lacan, puisqu'aujourd'hui on dit « mais Lacan c'est important » puisque Claude Lévi-Strauss l'a dit. Et Lévi-Strauss dit « Lacan c'est probablement important parce que tous les gens qui sont là semblent croire que ça l'est, donc ça l'est ». Phénomène d'hallucination collective. Et vous vous dites « structure élémentaire de la parenté », enfin toute la logique structuraliste des années 60, 70, un peu 80, qui produit une pensée dans laquelle un certain nombre de philosophes se trouvent. Il y a eu un Foucault structuraliste, il y a eu un Deleuze structuraliste, il y a eu un Derrida structuraliste, enfin, tout ce qui a compté en philosophie à cette époque-là était structuraliste. Bon, ils ont tous un peu quitté ça. C'est-à-dire le Foucault qui écrit les mots et les choses n'est pas le Foucault qui écrit le souci de soi, l'usage des plaisirs. C'est pas du tout la même chose. Ça a même considérablement changé en peu de temps, et tant mieux. Mais il y a des psychanalystes qui sont prisonniers de leur temps et souvent de métaphores particulières. C'est-à-dire que quand l'électricité arrive, ça, ce sont des sujets d'épistémologie pour des apprentis philosophes, mais quand vous avez une science nouvelle ou une discipline nouvelle ou une technique nouvelle, immanquablement, elle va générer des modes de pensée allégoriques. Et par exemple, quand l'électricité arrive, eh bien, vous avez tout un tas de métaphores sur l'électricité, vous avez tout le mesmérisme, enfin toutes ces choses-là qui vont générer tout un courant qui va donner Freud un temps. Quand on a la même chose avec les ordinateurs, quand vous avez un ordinateur, d'un seul coup, ça devient une métaphore, l'ordinateur. Et le cerveau devient un ordinateur super perfectionné. Ou l'inverse, on vous dit le cerveau est un ordinateur, l'ordinateur est un cerveau. Sauf que ça produit des schémas intellectuels qui font que quand vous allez travailler sur le cerveau ou quand vous allez travailler sur l'ordinateur, eh bien vous allez vous trouver induit dans une direction tout à fait particulière. Je pense que si on voulait faire une psychanalyse objective à la Bachelard, eh bien on verrait comment un certain nombre de découvertes scientifiques induisent des propositions théoriques et qui sont des productions un peu fautives. Donc effectivement, il y a des choses qui sont les produits de leur temps. Donc quand on a eu des ordinateurs, c'est une chose, mais après on a eu des ordinateurs en réseau. Donc aujourd'hui, le principe du réseau d'ordinateurs est un principe architectonique d'allégories et de métaphores qui font penser un certain nombre de philosophes selon ce schéma-là, victime un peu de ce schéma-là. Donc je dirais, la psychanalyse, elle a été freudienne, puis elle a été, à l'époque de Freud, jungienne et adlérienne, et puis après, vous avez trouvé des gens qui, avec Binswanger, étaient dans des psychanalyses phénoménologiques, psychanalyses existentielles, puisque l'invention, elle est plutôt de Binswanger, qu'on retrouvera ensuite chez un Sartre qui va le formuler à sa manière. Vous aurez ensuite la psychanalyse lacanienne, puis vous aurez la psychanalyse rachienne. Enfin, vous voyez comment tout ça suppose une espèce d'immense continent dans lequel il est difficile aujourd'hui de pouvoir dire il y a aujourd'hui des psychanalystes qui sont susceptibles de sortir un peu leur discipline des époques passées et puis éventuellement de formuler quelque chose de neuf. Moi, je n'ai pas lu toute la psychanalyse parce que c'est un continent à soi seul, mais je regarde un peu ce qui se fait aujourd'hui en psychanalyse. On ne trouve pas de gens qui pourraient nous dire que finalement ils ont ajouté un chapitre nouveau à la psychanalyse. On a plutôt l'impression que ce qui semble neuf aujourd'hui, une hypothèse aussi, peut-être travail d'un Pommier par exemple, quelqu'un qui s'appelle Pommier, de mettre en perspective la neurobiologie, les neurosciences et la psychanalyse. on a l'impression que, bon, on a découvert quand même qu'un siècle plus tard, Freud avait quand même raconté beaucoup d'histoires. Et même les gens qui sont freudiens, orthodoxes, s'ils ont un minimum d'honnêteté intellectuelle, sont obligés de découvrir que, voilà, il y a dans des collections de psychanalyse des gens critiques, y compris chez Pontalis, par exemple, qui ont fait des analyses de l'homme au loup en disant que, bon, Freud avait un peu bricolé les choses, quoi. Donc, ce sont des gens qui, aujourd'hui, disent « mais les neurosciences ne donnent pas tort à la psychanalyse ». Bon, je ne souscris pas du tout à ça, mais enfin, dans la logique du placebo, je pense que ça marchera toujours et que ça a marché toujours, mais ça peut aussi marcher là aussi. Et on vous dit, avec l'imagerie médicale numérique d'aujourd'hui, on a la possibilité aujourd'hui de visualiser, vieux fantasme scientiste, hein, mais de visualiser un certain nombre de choses qui procédaient jadis de la métapsychologie. Donc on pourrait voir des traumatismes, des zones dans lesquelles on aurait des traumatismes, avec la possibilité pour le coup d'intervenir peut-être, et là on donne raison au dernier Freud, l'analyse sans fin et l'analyse avec fin, d'intervenir de manière chimique en disant si vous travaillez sur les neurotransmetteurs et que vous avez, avec neurotonine, sérotonine, enfin, un certain nombre de substances qui sont manquantes, défaillantes ou je ne sais quoi, vous augmentez la quantité de substances, vous augmentez la qualité des neurotransmetteurs ou des neurotransmissions, et puis vous allez résoudre le problème. Et tout ça est visible par une imagerie médicale sans que ça discrédite pour autant Freud. Donc vous voyez, votre question est intéressante, mais elle est très, très vaste parce que finalement vous avez un chantier considérable où tout est possible, puisque d'une certaine manière le psychanalyste ne s'autorise que de lui-même. Il lui suffit de fabriquer son discours, comme aujourd'hui un chrétien, un marxiste ou des gens qui sont des disciples se servent d'un corpus et puis prélèvent ce qui les intéresse moins, ils ne prennent pas, et puis voilà quoi. Et de schisme en schisme, on arrive à des disparitions de religion un jour. C'est-à-dire une espèce de dilution, et aujourd'hui, Lacan a fait son effet, il ne fait plus son effet, les travaux de Pommier sont, je ne dis pas de façon méprisante, mais relativement confidentiels, pas assez pour générer un renouveau de la psychanalyse d'aujourd'hui, de sorte qu'on voit la psychanalyse aujourd'hui se défaire un peu comme le christianisme se défaire dans une espèce de psychothérapie généralisée où les gens sont dans un malaise et où ils viennent raconter leur vie et où on essaie de les soutenir, de les aider, de faire une espèce d'accompagnement thérapeutique en saupoudrant un petit peu avec quelques concepts, quelques effets de manche parce qu'il faut montrer qu'on suit les choses. Et puis voilà, et puis c'est très bien. Mais je persiste, et je conclurai là-dessus, mais je persiste à croire que si on va voir du côté de la philosophie, on a des résultats nettement plus intéressants et qu'on est moins dans des logiques de mystère ou de fable. Si on va voir du côté de toute la philosophie antique, qu'on n'a pas assez repensé. Je pense que s'il y a un renouveau de la philosophie antique, elle est souvent du côté de la morale, parce qu'on est dans une morale défaillante ces temps-ci, dans un défaut de morale. Si on va voir du côté des exercices spirituels de la philosophie antique, si on va voir du côté de la construction de soi, parce que qu'est-ce qui fait qu'on va un jour chez un psychanalyste et qu'on est déconstruit ? C'est peut-être même qu'on n'a jamais été construit. Il y a des façons philosophiques de régler des problèmes qui font que si on se remet au centre de soi-même, on n'a pas forcément besoin d'aller remettre son centre de gravité entre les mains de quelqu'un qui parfois n'en a pas grand-chose à faire et qui vous considère moins comme un patient que comme un client. C'est un peu le risque. Et moi qui suis sur des perspectives libertaires, c'est toujours un peu ce qui m'embête, l'idée qu'on renonce à soi en considérant qu'un autre aura la solution pour nous. C'est ce qui anime mon esprit critique.
Bonsoir, juste, je vais lever la main.
Oui.
Moi, j'aurais souhaité savoir, c'est un petit peu dans la continuité, savoir si la découverte de l'analyse psychologique n'a pas été utilisée plutôt que pour développer l'humain, entre guillemets, à l'asservir.
Ce sont des instruments. Donc effectivement, avec des instruments, vous pouvez faire le meilleur et le pire. Avec un couteau, vous pouvez assassiner votre voisin, ou votre voisine, et vous pouvez couper une pomme aussi. Donc vous avez un usage de tout ce qui est psychologique, disons-le comme ça, un peu au sens large du terme, un usage de tout ce qui est psychologique qui est un peu problématique. On peut imaginer qu'il y a un aspect contre-révolutionnaire du freudisme, par exemple. On finira l'année là-dessus, mais vous verrez effectivement qu'on vous dit, en gros, c'est vous qui avez des problèmes. Et la société, elle est coupable de rien, responsable de rien. Des fois, la société, elle est coupable aussi. Moi, je me bats contre les gens qui veulent que ce soit la société qui soit tout le temps coupable et responsable et les individus jamais, mais je ne voudrais pas commettre l'erreur inverse, qui consisterait à dire que la société ne l'est jamais. La société, elle est coupable, pas tout le temps, elle l'est parfois, souvent, y compris dans des brutalités comme notre époque. Et de temps en temps, vous avez des psychanalystes qui sont des occasions de vous remettre dans la machine sociale, où on vous dira que ce qui vous amène sur le divan, eh bien finalement, il va falloir apprendre à vivre avec. C'est un petit peu le dernier Freud qui nous dit ça. Alors, il y a évidemment une carte postale politique de la psychanalyse, et la carte postale consiste à dire que la psychanalyse, elle est libératrice. Elle ne l'est pas du tout. La psychanalyse freudienne, elle ne l'est pas du tout. Et c'est d'ailleurs le sens de la critique de Deleuze et de Guattari dans leur livre L'Anti-Oedipe. On s'aperçoit qu'elle est normative, la psychanalyse. Et vous verrez, quand on abordera la question de l'homosexualité, la question de la phallocratie, de la misogynie, etc., Freud, il nous dit, la norme, c'est ça. Un homme, une femme, un couple, un foyer, des enfants, etc. Tout ce qui est à côté, c'est anormal. Vous êtes pervers, fétichiste, homosexuel, etc. C'est pas comme ça. Vous avez une carte postale qui vous dit donc qu'elle est libératrice. Non, elle n'est pas libératrice, elle est normative. Vous avez une carte postale qui vous dit aussi la psychanalyse, elle est antifasciste. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout, c'est une légende. Vous verrez comment Freud dit du bien de Mussolini, comment il dit du bien du chancelier Dollfuss, qui était l'inventeur de l'austrofascisme, et comment il n'a jamais dit de mal du nazisme. Alors évidemment, l'antisémitisme le gênait et pour cause, mais en revanche, il a dit du mal de l'Union soviétique, du communisme, du bolchevisme, etc. Et quand quand Hitler arrive au pouvoir en 1933 et que, bon, il se dit qu'est-ce qui va se passer, Freud pense qu'il est trop, connu planétairement pour qu'on lui cherche des ennuis. Il y a un auto-da-fé, on brûle ses livres parce qu'il est juif, pas parce que c'est de la psychanalyse, parce qu'il est juif. Et il dit, on fait des progrès, à une époque on m'aurait brûlé. Donc maintenant on se contente de brûler les livres. Et puis il comprend qu'il va falloir quand même quitter l'Autriche. Et depuis l'annexion, il faut quitter l'Autriche parce que c'est pas possible. Donc il part en Angleterre. Et à partir de ce moment-là, il pense à la question de la survie de la psychanalyse. Et il y a des correspondances avec Eitingon, par exemple, j'en ferai usage en fin d'année, où Freud explique comment il faut maintenir la psychanalyse sous le Reich. Il ne dit pas « il faut arrêter », il dit « non, ce n'est pas incompatible ». Donc il faudrait nous trouver une espèce de un goy qui soit susceptible de pouvoir travailler. Un juif, on ne pourra pas, mais avec un goy, ça pourra passer. Donc la psychanalyse, elle n'est pas antifasciste par essence. Et vous verrez même que le père, la horde primitive, l'espèce de lecture que Freud fait du surhomme nietzschéen, qui est un truc assez extravagant, mais qu'il met en perspective avec le césarisme. Et quand il sauve le bolchevisme, c'est pour une idée simple, il nous dit, il y a un truc qu'on peut sauver quand même dans le bolchevisme, c'est que ça met en avant des grands hommes qui n'ont peur de rien. Je vous rappelle quand même qu'à l'époque où il écrit ça, il s'agit de Staline. Quand même, hein. Donc effectivement, il y a chez Freud une espèce de fascination pour le père qui est capable de mettre tout le monde en rang. Donc il n'y a pas de possibilité de dire c'est antifasciste par essence. Non, ça a collaboré aussi de manière normative au régime totalitaire. Autre point où ça a collaboré aussi de manière normative, pas tous évidemment, hein, mais pour vous dire que c'est tout à fait pensable, sous régime soviétique, où il y avait un usage policier de la psychiatrie, au sens large du terme, où on considérait qu'un type qui a le culot de croire qu'il peut s'opposer au régime soviétique, c'est un fou. Donc, effectivement, on les enferme. Et on a là la justification des psys, au sens large du terme. Donc, de fait, et puis vous avez aujourd'hui une espèce d'usage un peu soft du psy. Ça va du conseiller conjugal au sexologue, en passant par le psychologue scolaire qui s'en vient faire des tests. C'est effrayant, les tests. Des tests qui ont été mis au point par les militaires américains, qu'on amène dans une école, et puis vous avez des enfants à qui on va prédire un avenir particulier parce qu'ils auront mis un rond dans un carré ou un triangle dans un rectangle, et qu'on trouvera là des histoires édipiennes, des histoires de viol dans l'enfance ou d'abus sexuels ou ce genre de choses, tout ça avec des tests psychologiques, des batteries de tests. Les sélections aujourd'hui qui se font sur des tests où on vous dit, voilà, vous avez un CV, mais on va vous faire un entretien avec des espèces de DRH qui sont souvent frottées de psychologie, qui font un usage politique de la discipline psy, je dirais. Donc, vous avez un usage possible de la discipline psy, qui est un usage normatif, qui est un usage d'intégration, où on vous dit, vous avez des problèmes, venez par ici, on vous remet en route, et vous allez pouvoir continuer à bien vivre, ou à vivre tant que faire se peut dans cette civilisation. Voilà pourquoi j'interviendrai l'an prochain sur le freudo-marxisme qui, lui, n'est pas normatif, par définition. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure en parlant de Reich. C'est-à-dire qu'on prend ce qu'il y a de plus intéressant chez Freud et puis on prend ce qu'il y a de plus intéressant chez Marx. c'est-à-dire chez Marx, la critique de l'aliénation et la désaliénation, et chez Freud, l'idée effectivement qu'il y aurait des logiques inconscientes, mais pas forcément l'inconscient freudien, mais qu'il y aurait des logiques inconscientes qui nous feraient être ce que nous sommes, qui nous conditionneraient dans notre identité qui pourrait parfois être problématique. Faites un mélange de ça, freudo-marxisme, et vous avez une pensée qui dit « mais peut-être qu'on pourrait commencer à changer les conditions de vie des gens, moins travailler ». Mieux travailler. Par exemple, il y a une critique de la société de consommation chez Marcuse, où on vous dit, mais pourquoi travailler tant pour produire des stocks qui vont permettre des spéculations, qui, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'on s'abrutit comme ça? On devrait produire pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. Donc on est déjà dans une logique de décroissance. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tant consommer? Consommons moins, produisons moins, travaillons moins, libérons du temps disponible. Et puis libérons du temps pour la culture, pour le savoir, pour l'intelligence, pour la fraternité, pour la cuisine, pour la musique, pour le, etc. Ce que disent ces freudo-marxistes-là. Donc effectivement, là encore, votre question est intéressante parce qu'elle est large et qu'elle permet de baliser vraiment des territoires en disant « vous avez des usages normatifs de la psychanalyse, vous avez des usages intégrateurs ». Où on vous dit, viens par ici, toi, petit garçon, là, qui a insulté ton professeur et qui a craché sur ton instituteur, qui, etc., etc., petit délinquant, nanana. Et puis après, on dit, ah oui, mais c'est normal, papa, maman, bon, voilà, le père boit, la mère se prostitue, c'est un peu normal, laissez-le, il n'a rien fait. Il faut trouver une bonne mesure entre le « il est coupable de tout » et « il est coupable de rien ». Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le proviseur qui dit il est coupable de tout. Enfin, on appelle ça un conseiller principal d'éducation maintenant. Non, c'est plus la même chose. Mais bon, on les appelait les préfets de discipline, au moins, c'était clair. Et aujourd'hui, vous avez une espèce de petite soupe psychologique où on considère qu'il a des bonnes raisons d'insulter son prof. Et la prof, tant pis, elle a dû faire un truc qu'il ne fallait pas faire. Quoi. Donc cette espèce d'usage de la psychologie aujourd'hui à des fins... à des fins un peu de je sais pas quel mot conviendrait, mais enfin de laisser faire. Il s'agit de dire, bah oui, mais enfin, on explique tout, on justifie tout, tout est possible, tout est pensable. Tout ça suppose effectivement qu'il faudrait considérer qu'il y a des usages politiques, critiques à la psychologie et que c'est bien, que c'est bon, et que parfois, il y a des usages qui contribuent au nihilisme de notre époque, disons-le comme ça. Il y a un usage nihiliste. Du psy, au sens large du terme. L'usage nihiliste consiste à dire qu'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de collectivité, il y a juste des souffrances individuelles. Et que la souffrance individuelle, elle est à traiter en tant que telle, comme si la souffrance individuelle, elle était susceptible d'être dissociée totalement du terreau sur lequel elle pousse. Donc il faudrait qu'aujourd'hui, les psys, au sens large du terme, psychiatres, psychologues, psychanalystes, etc., s'emparent de l'histoire à nouveau, et considère que les bibliothèques, c'est bien pour se former, mais que le réel, c'est mieux. On souffre d'une espèce de délire aujourd'hui qui est un délire déréalisant. La fiction est plus vraie que la réalité. Le réel est moins important que la représentation du réel. La télévision est plus vraie que la réalité. Des fois, on vous regarde, on vous dit, ah, je vous ai vu à la télé, vous existez vraiment ? Là, en chair et en os, parce que votre vérité, elle est télévisuelle. Votre vérité, elle est iconique. Donc dans un monde où effectivement on est perdu, où les enfants sont perdus, où il n'y a pas de réel, il n'y a pas de virtuel parce que tout le virtuel est réel, ça veut dire qu'on est dans un état de déréalisation qui est catastrophique et problématique. Que c'est un des grands signes de la barbarie que de nier l'histoire, le travail de l'histoire. Et je pense que si le psy est capable de considérer qu'il y a de l'histoire, qu'il y a du psychisme qui est en situation historique et qu'en même temps il y a un certain nombre de valeurs qui sont nécessaires, qui sont constitutives d'un être. On ne peut pas considérer que l'école n'a pas à transmettre de valeurs, parce que quand elle ne transmet pas de valeurs, elle transmet des valeurs, des mauvaises valeurs, mais on n'a pas le choix, on transmet des valeurs. Donc l'idée qu'aujourd'hui, par exemple, on ne pourrait pas s'entendre sur un certain mode de vivre ensemble, proposer aux enfants l'idée qu'il leur faut apprendre l'existence d'autrui. Ça, c'est essentiel. Il y a plein de gens qui se retrouvent un jour sur le divan d'un psychanalyste parce qu'ils ne savent pas qu'autrui existe. Parce qu'ils ne savent pas que le monde existe, parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne sont pas seuls au monde, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont tout seuls au monde. Et ça, c'est notre civilisation, brutale, violente, libérale, capitaliste, chacun pour soi, chacun sa violence, éloge de la jungle, au plus fort la pouche, comme on dit dans ma campagne, et puis allons-y. Donc effectivement, il y a des usages dangereux de la psychanalyse, usages normatifs, usages, je dirais, déréalisants, un usage qui n'aurait pas de souci de l'histoire et du réel, et puis un bon usage, me semble-t-il, des disciplines psy, qui suppose qu'il faut trouver la bonne distance avec l'histoire, avec le réel, avec le monde, avec les autres, en construisant des modes d'emploi relationnels, en construisant des structures historiques et pas des structures hystériques. C'est un peu l'alternative qu'on nous propose aujourd'hui, l'hystérie ou l'histoire. Ben moi, j'ai choisi l'histoire. Donc si on voulait rejoindre les deux questions, on pourrait peut-être dire que si les psys étaient capables d'un souci éthologique, un souci de ce que l'éthologie nous apprend, parce que nous sommes des mammifères, et que nous sommes restés des mammifères, et que Laborie avait fait des belles analyses sur le cerveau reptilien, sur le cortex et sur le néocortex. On est dans cette interaction entre cortex, néocortex et cerveau reptilien. Notre civilisation est une civilisation qui célèbre le cerveau reptilien, et qui ne veut pas toucher au cortex, en considérant que c'est du fascisme, que c'est de l'autoritarisme, que c'est de la brutalité, que c'est de la violence, etc. Mais c'est plus violent encore que de laisser parler le cerveau reptilien tout seul. Donc je pense que nous avons besoin d'une véritable psychanalyse critique, qui cesse les histoires, les histoires freudiennes qui sont les formes prises un temps dans l'histoire par la psychologie, qui est une magnifique discipline, et qui préexiste à Freud et qui durera bien après Freud, qui est une discipline magnifique, mais qui mérite qu'elle n'ait pas des soldats, mais qu'elle ait des penseurs. Pas des soldats de la psychologie, mais qu'il faut des penseurs de la psychologie, et qu'il n'y a pas meilleur penseur de la psychologie que le psychologue de terrain, que celui qui connaît le terrain et qui pense son activité, qui pense sa discipline, qui ne va pas penser des livres, des bibliothèques, mais qui, à partir d'un réel, justement, on retrouve la méthode expérimentale, va extraire des thèses qui seront utiles. On a besoin de psychologues et de psychanalystes. Simplement, il faut se dire que la psychanalyse vieille mode, qu'elle soit lacanienne ou qu'elle soit freudienne, elle a fait son temps, elle a bien fait son temps, et que j'invite chacun parmi vous, là où vous êtes, c'est-à-dire peut-être des psychologues, peut-être des psychiatres, peut-être des psychanalystes, à refabriquer une discipline qui a besoin d'être refabriquée, parce qu'il n'y a pas de discipline qui soit susceptible de fonctionner une fois pour toutes en disant ça a été posé et ça va marcher 10 siècles. Non, c'est vivant. Une discipline, c'est donc ça vit, ça naît, ça croît, ça meurt. De temps en temps, vous avez la possibilité de brancher des réseaux nouveaux qui vont insuffler comme ça. Je ne pense pas que le structuralisme ait fait du bien à la psychanalyse. Je pense que l'éthologie lui ferait du bien. Et je pense que la philosophie lui ferait du bien.
Oui, bonsoir. Je voudrais vous demander, l'inconscient, c'est la ruse de la raison idéaliste. Est-ce que dans la pensée matérialiste, l'inconscient apparaît ? Je veux dire, est-ce que on tient compte de l'inconscient chez les penseurs matérialistes, et si oui, comment ? Ou est-ce que ça disparaît totalement ce...
Alors, chez les matérialistes, c'est tout simple. Puisqu'un matérialiste réduit la totalité de ce qui est à la matière, il y a un inconscient et il est matérialiste. Alors, évidemment, on ne l'appelle pas forcément inconscient. C'est-à-dire que c'est difficile de répondre à votre question dans la logique historique parce que les textes manquent. Vous avez Lucrèce, qui fait un ouvrage monumental en vers, qui s'appelle « De la nature des choses », et c'est un livre dont il manque la fin. Et dans ce livre-là, vous avez une réponse à votre question, des éléments de réponse à votre question. C'est parce qu'il y a de plus évident dans la pensée de Lucrèce qui distingue entre l'esprit et l'âme, par exemple, et qui ne les localise pas dans les mêmes endroits non plus. Donc vous voyez qu'on peut être matérialiste, d'une part, considérer qu'il existe une âme et considérer qu'il existe un esprit aussi. Simplement, comme tout est matériel, lui considère qu'il y a des atomes et que ces atomes sont plus ou moins subtils. Là, pour le coup, la subtilité est à voir sur le terrain de la physique, c'est-à-dire plus ou moins léger ou composés d'une manière plus ou moins lisse. Alors, et je vous dis, ce n'est pas toujours très simple, parce que bon, moi, je ne lis pas un latin courant, donc je suis obligé de construire sur les traductions et de comparer les traductions. Il y a des moments où on se dit, mais qu'est-ce qui distingue l'âme de l'esprit ? Est-ce que, par exemple, l'esprit, dont Lucrèce nous dit qu'il est dans le plexus, qu'il est plutôt dans cet endroit-là du corps, est-ce que c'est ce qui pourrait être assimilé aujourd'hui par les médecins au système neurovégétatif ? C'est-à-dire à ce qui constituerait la vitalité de la vie, ou le principe de la vitalité. On peut imaginer que ça pourrait être ça. Et que l'inconscient dont nous parlons avec ce vocabulaire-là, l'inconscient d'aujourd'hui, il pourrait être probablement mis en perspective avec l'esprit, mais pas forcément l'âme, avec l'esprit tel que Lucrèce l'aborde dans De la nature des choses. Ensuite, ça continue, vous avez des philosophes dont on connaît encore moins les œuvres, Philodème de Gadara, par exemple, qui sont des gens pour lesquels il reste vraiment encore moins, du moins des fragments qui ne sont pas utiles sur ce terrain-là. Et puis vous avez une espèce d'oubli de la philosophie de la matérialiste, parce que vous avez un christianisme qui a été extrêmement violent Parce qu'évidemment, Platon, c'est récupérable, le stoïcisme, c'est récupérable, enfin, tous les philosophes idéalistes, c'est récupérable pour le christianisme. Si vous lisez le Phédon et qu'on vous parle d'enfer, qu'on vous parle de paradis, d'âme, d'âme qui quitte le corps, d'âme qui survivent, d'immortalité de l'âme, etc., vous pensez bien que le platonisme est soluble dans le christianisme et que Platon, on le garde. L'épicurisme n'est pas soluble dans le christianisme. Parce que si vous dites qu'effectivement tout est matière, alors qu'est-ce que vous allez faire de la virginité de Marie? Qu'est-ce que vous allez faire de Jésus qui ressuscite? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez besoin d'autre chose pour justifier vos fables. Le matérialisme, théoriquement, ne permet pas les fables. Le matérialisme est une philosophie qui interdit les affabulations. Voilà pourquoi Freud n'est pas matérialiste, entre autres. Et donc, pendant 10 siècles, voire un peu plus, vous avez une espèce de Moyen-Âge, au sens négatif du terme. Je pense que le Moyen-Âge est une grande période, contrairement à ce qu'on dit, mais vous avez tous les historiens romantiques, Michelet en tête, qui ont considéré que le Moyen-Âge, c'est devenu un symbole d'obscurantisme, d'obscurité, etc. C'est pas vrai, c'est parce qu'on le connaît peu, mal, pas bien, mais c'était une grande époque. Mais on ne sait pas grand-chose sur le matérialisme dans ce moment-là, simplement le matérialisme est un peu mystique. Si vous prenez Giordano Bruno, il est dans une logique de matérialisme mystique, d'une astrologie astronomique ou d'une astronomie astrologique, panthéiste, où on considère que effectivement tout est matière, mais la matière serait plutôt une espèce de feu, donc plutôt un feu stoïcien qu'un feu épicurien. Donc là, sur ce terrain-là, on n'est pas dans une logique d'inconscient. Même si vous avez, j'ai fait un cours sur Montaigne il y a plusieurs années, il y a chez Montaigne des rudiments de ce qui pourrait ressembler à une espèce de psychanalyse. D'abord parce que j'ai montré que Montaigne n'avait jamais écrit les essais, mais qu'il les avait dictés. C'est dit 3 fois dans les essais, on ne le dit jamais, parce qu'on lit rarement les essais intégralement et plusieurs fois. Simplement, Montaigne déambulait dans sa tour, dans ce qu'il appelait sa librairie, c'est-à-dire sa bibliothèque. Il y avait quelqu'un qui notait ce qu'il disait. Donc les essais sont recopiés d'une parole, parce que c'est comme ça qu'on pensait dans l'Antiquité. C'était la parole qui primait, et puis les écrits, c'était sans importance. Donc Montaigne est quelqu'un qui a bien compris qu'il n'y avait pas que le conscient. Alors il ne nomme pas ça l'inconscient. Si vous voyez le vocabulaire qui a existé depuis Montaigne, c'est considérable, le vocabulaire qui a été inventé après Montaigne et qui nous a permis de mieux penser. Quand vous voyez le petit vocabulaire dont Montaigne dispose, et cette idée qu'il nous propose, enfin ce génie qu'il a dans les essais, avec notamment cette idée que derrière la conscience, il y a quelque chose qui n'est pas la conscience. Que la conscience n'est pas, pour utiliser l'expression de Freud, elle n'est pas une maîtresse chez elle. Ça, c'est déjà chez Montaigne. Il ne parle pas d'inconscient, mais il sait bien que derrière le conscient, il y a quelque chose d'autre qui nous fait être ce que nous sommes. Donc on va plus vers une espèce de pensée du corps, une pensée générale du corps. On sait bien que ça se passe dans le corps, ça se passe dans l'esprit, ça se passe dans le cerveau, mais tout ça est compliqué. C'est pas encore très simple. Montaigne est quelqu'un qui sort du Moyen-Âge. C'est la pensée de la Renaissance, c'est-à-dire c'est dans une époque chrétienne, il essaie de penser, y compris le christianisme, avec les philosophes de l'Antiquité, mais il utilise tous les philosophes de l'Antiquité. Il utilise indistinctement un épicurien, un stoïcien, un sceptique, un pyrrhonien, etc. C'est une espèce de grand mélange comme ça. Et puis vous avez Descartes, qui arrive et qui, lui, repense la totalité de l'idéalisme, du spiritualisme aussi, et puis en chrétien, élabore cette idée qu'il y aurait une substance étendue, une substance pensante. Et que la substance étendue, c'est le corps, et que la substance pensante, c'est l'esprit, pour aller vite. Mais il se dit, mais comment c'est lié, l'esprit dans le corps? Comment ça marche? Où il est, l'esprit dans le corps? Et Descartes a travaillé sur le cerveau, il a découvert l'épiphyse, un endroit qui, dans le cerveau, lui donne l'impression, ce qu'il appelle la glande pinéale, lui donne l'impression que le lieu de liaison entre la substance étendue et la substance pensante, c'est là que ça se joue. Simplement, on ne sait pas encore comment fonctionne le corps, la circulation du sang, Harvey, tout ça c'est contemporain du XVIIe, enfin tout ça est quand même pas très clair, donc on sait bien qu'il y a quelque chose dans le corps qui dépasse le corps, ou qui déborde le corps, ou qui, dans le corps, est une grande raison, pour le dire comme Nietzsche, mais c'est pas encore très précis non plus. Donc à partir du moment où Descartes existe, vous avez toute une pensée qui va se réclamer de ce Descartes-là, de ce Descartes d'une certaine manière prématérialiste, même si lui ne l'est pas. Il est dualiste, il est spiritualiste, il est chrétien, et il essaie de voir comment ça s'articule. Et là, vous avez un lignage qui va passer par Lamettri, qui lui est médecin, et qui lui dit « mais il n'y a que de la matière ». Et il pose la question que vous posez, c'est-à-dire la question de ce qui fait que l'agencement de matière va donner de la vie, du vivant, de la pensée, du génie, de l'intelligence, de la bêtise ou je ne sais pas quoi. Et ce sont tous des gens qui essaient de réfléchir à cette espèce d'étincelle qui va générer la vie ensuite. Et vous avez chez l'abbé Mélier, Jean Mélier, le premier athée, une réflexion sur ce qui fait qu'on passe de la matière au vivant. Qu'est-ce qui fait que vous avez un assemblage de matière, que de cet assemblage de matière, on arrive à du vivant ? Aristote disait, vous mettez un tas de saloperies, de chiffons sales, etc., et la vermine va naître de ça. On va y croire jusqu'à Pasteur. La génération spontanée, c'est ça. Le premier concept, me semble-t-il, et là j'improvise, hein, mais le premier concept, me semble-t-il, qui pourrait entrer un peu plus précisément en ligne de compte pour pouvoir répondre à votre question, il y avait donc le fameux esprit qui se distingue de l'âme chez Lucrèce, mais sur lequel on sait peu de choses, c'est un concept dont j'ai eu l'occasion de parler quand j'ai abordé d'Holbach, qui s'appelle le nisus, N-I-S-U-S. Et le nisus, on le retrouvera chez Guyot un petit peu plus tard. C'est difficile à dire aussi, mais on peut imaginer que c'est ce qui est vivant dans la vie. C'est le principe de la vie dans le vivant. C'est ce qui fait que quand vous mélangez de la matière, eh bien, quelque chose va surgir qui va donner du vivant avec les lois que l'on connaît. Alors évidemment, on est dans une espèce de réflexion, on essaie de savoir comment ça marche. Bon, il y a des erreurs chez D'Holbach, qui est un ultramatérialiste, mais qui pense que, par exemple, les vers qui naissent dans la farine, eh bien, naissent un peu comme avec la génération spontanée. Ça fait Marie Voltaire, d'ailleurs. Qui n'est pas tort, de considérer effectivement que chez un ultramatérialiste, cette espèce de crédit donné au vivant qui naîtrait de la matière, c'est un peu court. Donc effectivement, on cherche et on ne trouve pas, quand on est matérialiste, un principe dont on pourrait dire qu'il est organisateur du vivant. Donc on continue au XIXe siècle à réfléchir sur ce terrain-là, parce que les matérialistes du XVIIIe ont un peu ouvert la voie. Et là, vous avez des gens dont j'ai eu l'occasion de parler parce que Nietzsche les a lus, et qu'ils font un peu la loi au XIXe siècle. Ce sont des scientifiques qui, par exemple, Büchner, Force et matière, qui sont des livres extrêmement importants à cette époque-là, où on commence à réfléchir à des notions comme celle-ci, qui seraient susceptibles de relever des métaphores du temps. Alors c'est l'électricité, l'époque, c'est plutôt le magnétisme, fin du XVIIIe, mais on se dit, mais après tout, le magnétisme, il existe. Il est invisible, mais il est visible tout de même, il produit des effets, donc il y a une espèce de force à partir de laquelle s'organise l'être tel qu'il est véritablement. Donc on commence à réfléchir sur ces questions de force, d'énergie, d'entropie. Cournot travaille sur ces sujets-là, les scientifiques travaillent sur les lois d'entropie et de la thermodynamique. On essaie de voir comment tout ça marche, on avance, et puis c'est à partir du moment où on fait des progrès en matière de science qu'on commence à découvrir que l'organisation de la matière est ainsi faite qu'effectivement on a des atomes, qu'on a des neurotransmetteurs, etc., etc. Et la biologie des passions, la biologie, pour l'utiliser l'expression de Jean-Didier Vincent, la biologie de l'intelligence ou la question de l'homme neuronal chez Jean-Pierre Changeux, ce sont des questions extrêmement récentes qui sont des questions qui donnent plus d'interrogations, enfin qui fournissent plus d'interrogations qui n'offrent de réponses et de certitudes. Parce qu'on constate effectivement que l'inconscient, ça fait bien longtemps que les philosophes disent qu'il existe, ça fait bien longtemps qu'ils disent que ce qui nous apparaît, la conscience, c'est une espèce de fleur dont les racines sont inconnues, méconnues, mais il y a des racines. Et puis on découvre que quand on ouvre le ventre de la poule aux œufs d'or, on découvre rien. On découvre rien, c'est-à-dire quand c'est un peu comme un oignon, quand vous enlevez les épleures d'oignon, au centre de l'oignon, il n'y a pas d'oignon, il n'y a rien. Donc, effectivement, l'homéostasie, pour le dire comme ça, mais l'homéostasie d'un être aujourd'hui, on ne sait pas comment ça marche. On le constate, on voit bien qu'à un moment, ça ne marche plus, et que vous avez une pathologie, que vous avez une maladie, que vous avez un vieillissement, que vous avez la vie qui s'arrête, comme ça, parce que la chandelle s'est éteinte et que l'affaire est réglée. Je crois simplement qu'on commettrait une erreur si, en tant que matérialiste, ce que je suis, on se contentait bêtement de croire que la somme d'un certain nombre de particules suffirait à générer le génie d'une vie, le génie d'un génie ou ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qui nous reste ? Bergson. Je pense que quand vous avez un philosophe comme Bergson qui écrit sur la pensée et le mouvement, qui écrit sur l'énergie spirituelle, qui reprend le flambeau du vitalisme, alors on se dit effectivement c'est une voie intéressante. C'est-à-dire que vous avez eu, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais des enjeux idéologiques qui ont opposé des matérialistes purs et durs, issus du XVIIIe, ou des gens ensuite comme Cabanis et quelques autres, comme Bichat, qui sont des individus qui ont réfléchi sur la question de la matière, en disant « il n'y a que de la matière, et même si on n'arrive pas à savoir pourquoi ça marche, comment ça marche, c'est tout de même tout ce qui est tout de même réductible à de la matière ». Donc, eux, c'était les matérialistes. Et puis, en face, vous aviez des vitalistes. Bordeaux, par exemple, qu'on n'est pas très bien, enfin, dont on ne connaît pas vraiment le nom, mais qui, eux, considéraient que, il y avait de la vie. Et que la vie, même si on ne peut pas en dire grand-chose, eh bien, c'est autre chose qu'un pur assemblage de vivants. Et que ce qui importe, c'est moins ce qui est assemblé que ce qui a lieu entre les objets assemblés. Et que c'est là que se joue la chose. Alors évidemment, comme on a opposé matérialiste et vitaliste, comme on avait opposé jadis, à cause de Cicéron, stoïciens et épicuriens, mais de manière très fautive, parce qu'ils sont très proches, les stoïciens et les épicuriens, quoi qu'on dise, c'est-à-dire ce qui les rassemble est plus important que ce qui les sépare. Là, c'est la même chose avec vitalisme et matérialisme, c'est-à-dire que si vous pensez le vitalisme en termes de matérialisme, ou le matérialisme en termes de vitalisme, alors vous avancez un petit peu. Mais quand on a conçu qu'effectivement il y avait dans le corps quelque chose qui était une grande raison, pour le dire comme Nietzsche, que cette grande raison, elle était réductible à de la matière, mais qu'elle n'était pas réductible qu'à de la matière, parce que c'est quand même dans un corps que l'inconscient se dit, alors à ce moment-là, on s'aperçoit que ça reste une question qui n'a pas obtenu de réponse dans l'histoire des âges. La somme de ce qu'on ignore est plus importante que la somme de ce que l'on sait sur ce sujet-là, et ce que l'on sait, singulièrement, on le doit plus à des philosophes qui auront postulé. On peut imaginer assez probablement que la vérité ou la réponse à votre question, elle viendra un jour de l'astrophysique. Et qu'on comprendra un jour, quand on cessera d'avoir le nez dans son petit guidon, sa petite nature, sa petite planète, son petit truc, et quand on concevra qu'il y a un mouvement du cosmos dans lequel nous sommes pris, alors peut-être on comprendra un certain nombre de choses. D'abord, on ne définirait plus le temps et l'espace comme on les définit quand on est philosophe. On serait obligé de les définir à partir de la relativité générale, la relativité restreinte, Einstein, tous les travaux qui ont suivi. Et là, on verrait vraisemblablement qu'il y a une espèce de force générale qui explique la totalité de ce qui est. Le mouvement des planètes, le mouvement dans le cosmos, dans l'univers, le mouvement des plantes, le mouvement des êtres. Et que ben finalement, cette force-là, elle participe assez probablement de l'attraction universelle découverte dont les lois ont été découvertes par Newton, comme on le sait. Et on voit bien qu'il y a une espèce d'immense mouvement qui ne peut pas ne pas intéresser le matérialiste. Qu'est-ce qui se passe quand on découvre un trou noir, par exemple, quand on fait la description d'un trou noir et qu'on vous explique que la densité est telle que rien ne peut sortir de cet endroit et que tout s'y trouve absorbé et que vous avez des champs magnétiques qui sont créés autour de ça et que ces champs magnétiques, quand ils produisent des effets dans le cosmos, produisent des effets sur la totalité de l'univers dont nous sommes. À ce moment-là, vous vous dites effectivement, les philosophes qui ont nié l'existence du libre-arbitre et qui nous ont dit effectivement que nous obéissions, et que nous obéissions à plus que nous, eh bien, sont des gens qui ont dit la vérité. Maintenant, on obéit à quoi ? Probablement cette force qui serait l'autre nom de l'inconscient, une espèce de force qui est à l'œuvre dans tout ce qui est, la force qui fait qu'on est en pleine santé, ou qu'on est malade, ou qu'on va mourir, la force qui fait qu'on est jeune, puis qu'on est vieux, la force qui fait qu'on a une grande santé, pour le dire comme Nietzsche, ou qu'on est faible. Enfin, toutes ces choses-là supposent effectivement que quelque chose qui n'est pas conscient, mais qui est, qui procéderait de ce que Bergson appellerait l'énergie spirituelle, eh bien, est à l'œuvre en nous, et que certains l'auront appelé l'inconscient. Alors, c'est une espèce de force dans laquelle, la plupart du temps, on mettra ce qu'on voudra. Freud y met ses fantasmes, ses obsessions, etc. D'autres y mettront des choses moins subjectives. Je pense que quand vous lisez Nietzsche ou Schopenhauer, le ville schopenhauerien, le vouloir schopenhauerien, ou la volonté de puissance de Nietzsche, j'ai donné des cours là-dessus à l'Université populaire, eh bien, ce sont des, à mon avis, des bonnes descriptions de ce que pourrait être cette force-là. On pourrait imaginer un inconscient dans les plantes. C'est ce que dit Hartmann, par exemple. La philosophie de l'inconscient chez Hartmann, eh bien, elle pense la question de l'instinct dans tout ce qui est, dans tout ce qui est vivant. C'est quoi l'économie du minéral qui va faire qu'un géologue vous dira, ben voilà, la structure atomique du diamant, c'est toujours la même. C'est d'ailleurs ce qui fait que c'est le diamant, et puis voilà. Quoi. Qu'est-ce qui fait ? On ne va pas dire qu'il y a une intelligence du diamant. On ne va pas dire que le diamant pense, mais le diamant obéit. Et vous avez, dans la géologie, une obéissance qui ne peut pas ne pas concerner les hommes. Les humains obéissent comme le diamant obéit, comme la plante obéit. C'est le fait qu'on persévère dans son être et le fait que cette force qui est en vous, elle vous conduise à être ce que vous êtes sans avoir le choix. La plante, elle n'a pas le choix entre être un chat, être un arbre ou être un homme. Elle est plante et nous, on n'a pas le choix d'être ce que nous sommes. Nous pourrions nommer l'inconscient la force à laquelle nous ne faisons qu'obéir. Mais les philosophes qui s'en sont sortis, c'était la conclusion l'an dernier sur Nietzsche, Les philosophes qui s'en sont sortis vous disent que la liberté, nous l'avons quand nous connaissons, et c'était déjà chez Spinoza ça, hein, quand nous connaissons ça, ce processus-là, et que nous y obéissons. Si vous savez que vous êtes condamné à obéir, et que vous obéissez à ce qui obéit en vous, quand vous voulez ce qui vous veut, alors vous êtes libre. Le vouloir de ce qui nous veut, voilà la liberté, dit Nietzsche. Eh bien, on peut imaginer que consentir à cette force-là, consentir à l'inconscient qui fait que nous sommes ce que nous sommes, ce serait accéder à la liberté qui, elle, serait jouissance, béatitude, joie, dit Spinoza. Béatitude, dit Nietzsche, dont Ainsi parlait Zarathoustra. Donc vous voyez que le petit moment de l'inconscient freudien n'est jamais vraiment qu'un épiphénomène dans la grande histoire de l'inconscient qui, elle, souvent oublie la dimension matérialiste qui, pour le coup, renvoie, ce que j'ai fait tout à l'heure, par exemple, à l'astronomie. À l'astrophysique plutôt qu'à l'astronomie. Et si vous êtes soucieux d'astrophysique, alors vous découvrez des choses plus intéressantes pour répondre à la question de l'obéissance à quelque chose qui nous dépasserait que si vous restez sur le pur terrain de la philosophie qui postule. Et je pense que si les philosophes étaient plus soucieux de solliciter les scientifiques, par exemple, mais pour ça il faut de la modestie, c'est pas franchement la qualité principale dont les philosophes ont montré pendant l'histoire des 25 siècles de philosophie, là on découvrirait probablement qu'on arrêterait de fantasmer sur la question des forces et qu'on leur donnerait des noms qui paraîtraient plus correspondre à des vérités constatables, scientifiquement reproductibles, et qui supposeraient la philosophie expérimentale. À chaque fois qu'on a avancé sur le terrain de la neurobiologie ou sur le terrain de l'astrophysique, par exemple, on a obtenu un certain nombre d'informations qui permettaient d'en finir un petit peu avec les postulats. C'est la grande leçon de la philosophie des Lumières. Le grand postulat de la philosophie des Lumières, c'est que plus la science avance, plus la religion recule, plus la mythologie recule, plus les fables reculent, plus on est susceptible d'expliquer comment les choses se passent réellement, moins on va solliciter les dieux. Et les matérialistes commencent très tôt, comme ça. Quand Lucrèce s'en vient vous expliquer ce que c'est que la foudre, eh bien, il vous explique que c'est un échauffement des atomes qui se passent dans le ciel et que cet échauffement, etc. Enfin, voilà, il ne connaît pas l'électricité statique, mais il présuppose qu'il y a des causes matérielles à des effets qui sont pris par la plupart des hommes pour des effets de Dieu. C'est-à-dire la foudre, c'était le mécontentement de Dieu. Et vous avez encore des gens aujourd'hui qui considèrent qu'un tremblement de terre, c'est la décision d'un Dieu qui n'est pas content. Plus on célèbre les causalités scientifiques, plus on fait reculer les causalités magiques. J'ose espérer qu'avec le cours sur Freud, on fait avancer les causalités scientifiques et qu'on fait reculer les causalités magiques. Voilà, merci.
C'était les conférences de l'Université populaire de Michel Onfray. Régisseur au Centre dramatique national de Normandie, Michael Migne. Prise de son, Pascal René, France Bleu Basse Normandie. Mixage, Jean-Michel Coqui. Réalisation, Véronique Villa.